Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour à tous, nous sommes le 27 février, voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
Étienne de Calataille est notre invité ce matin, économiste de renom qui a fait ses premières armes au FMI, à la Banque Nationale aussi, dans les cabinets ministériels. Il a longtemps été l'économiste en chef à la Banque de Grove. Il est maintenant président d'Orcadia, gestionnaire de portefeuille luxembourgeois, dont il est aussi le stratège et le cofondateur. Bonjour Étienne.
Bonjour Laurent.
On parlera d'économie, évidemment, avec vous, dans le monde tel qu'il est, après un an de guerre en Ukraine, un conflit qui a bouleversé pas mal de repères économiques, et de la portée des sanctions occidentales contre la Russie, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les secteurs qui continuent à y échapper. Vous avez un avis assez tranché là-dessus. Et puis, vous livrerez aussi notre regard sur la politique économique et sociale du gouvernement, en pré-campagne, à l'aube d'un printemps peut-être assez chaud sur le plan social. Je suis Laurent Fabry, merci Étienne de Calataille d'être en studio avec nous pour le brief de ce lundi.
Le brief, cette info, dès 7h.
La guerre en Ukraine est donc entrée dans sa deuxième année. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté encore ce samedi dans les rues de Bruxelles contre l'invasion russe. Ce dimanche, Vladimir Poutine a accusé l'OTAN de participer au conflit en Ukraine en fournissant des armes à l'armée ukrainienne. Les États-Unis appuient encore leur soutien militaire et financier à l'Ukraine avec une nouvelle aide de 2 milliards de dollars. Et puis les Européens ont fini par se mettre d'accord vendredi soir sur un dixième paquet de sanctions économiques contre la Russie. Alors une dixième salve, cela voudrait dire que le système des sanctions économiques ne fonctionne pas très bien ou qu'elle ne frappe pas là où ça fait le plus mal. Le G7 par exemple veut interdire le commerce des diamants russes, mais l'Europe ne le fait pas encore par exemple.
Pourtant, il nous le faudrait. Il nous le faudrait pour des raisons d'abord et avant tout morales ou éthiques. Il y a des moments où, même si ce n'était pas dans notre intérêt, nous aurions à dire stop, je ne veux pas de ce business-là, je ne veux pas faire du commerce avec des gens qui ne méritent pas que nous fassions du commerce avec eux. Et puis ensuite, il ne faut pas tomber sous l'influence du lobby qui va surdimensionner l'impact d'une mesure telle chose, que ce soit le lobby du diamant dans les circonstances actuelles ou de tout autre lobby dans toutes circonstances. L'économie belge est parfaitement capable le coût d'un arrêt du commerce des diamants avec la Russie, bien entendu.
Et pourquoi est-ce qu'il y a tellement de difficultés à se mettre d'accord autour de ces paquets de sanctions? Pourquoi ne pas avoir été plus vite, plus rapidement et plus loin? On craint un effet boomerang, un retour de flamme?
On n'a pas d'expérience, donc on ne l'a pas fait dans le passé, donc on ne sait pas très bien ce à quoi il faudrait s'attendre si nous le faisions, mais il faut redire la robustesse de nos économies qui sont capables d'encaisser des coûts, et donc il aurait fallu aller plus vite, plus fort.
Alors si le conflit en Ukraine s'enlise, la crise énergétique qui en découlait semble se calmer un petit peu, les prix du gaz, de l'électricité retrouvent des niveaux plus acceptables, même si cela reste relativement haut. Mais enfin, est-ce qu'on retrouvera les prix d'avant 2022, à votre avis ?
Quitte à choquer, et bien entendu en ayant à l'esprit ceux pour qui les fins de mois sont difficiles, il ne faut pas souhaiter que nous retrouvions des prix bas d'énergie. Il nous faut une énergie chère. Et c'est malheureux que nos hommes et femmes politiques n'insistent pas, n'osent pas avoir ce message de courage. L'énergie doit être chère et il faut donner davantage de transferts monétaires aux ménages, mais il faut un signal prix fort. C'est quand l'énergie est chère que les gens mettent un deuxième pull et baissent d'un degré ou de deux le thermostat. Ce n'est pas autrement. Ça fait 50 ans que nous savons que nous devons faire davantage attention à la planète. Nous ne l'avons pas fait. Ce qui nous fera changer, c'est un signal prix, c'est donc une énergie chère.
Si l'énergie revient à des prix plus abordables, est-ce que l'inflation, la récession qu'on a promis s'écarte ?
On a beaucoup parlé d'une récession majeure, ça allait être la pire que ce que nous n'avions jamais vu, et une fois encore, les Cassandres en étaient pour leurs frais. Une fois encore, l'économie a fait montre de cette robustesse que j'évoquais, cette résilience pour prendre un terme dans un autre domaine. Il ne faut pas s'inquiéter, l'inflation va revenir dans les clous. Il n'y a pas de raison que ce qui a fait la faiblesse de l'inflation ces 30 dernières années, tout à coup, se soit évaporé. Les travailleurs en particulier n'ont pas pas retrouvé un pouvoir de négociation particulièrement élevé, et cela en dépit d'un taux de chômage faible. Et donc aujourd'hui, on peut penser que l'inflation va être ramenée dans sa fourchette. Est-ce que ce sera 2%, 2,5%? Je n'en sais rien, mais le 5% d'inflation sous-jacente qu'on observe aujourd'hui en Europe n'est pas appelé à durer.
Et ça veut dire que les banques centrales avaient un peu dégainé l'arme des taux, en tout cas pour juguler l'inflation. C'est pas encore vraiment la grosse artillerie, enfin, c'est déjà du bon calibre tout de même. C'est une politique qui est appelée à durer, à votre avis?
Oui, et j'ai envie de dire malheureusement, parce que ce n'est pas un bon instrument par rapport à la maladie dont nous avons à traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons fait face à un choc d'offres. Appuyer sur les taux d'intérêt, c'est bon pour traiter un choc de demande, comme disent les économistes, pour calmer la demande. Face à ce diagnostic-là, l'instrument apparaît inapproprié. Mais elle ne pouvait pas ne pas le faire. Elle ne pouvait pas, après avoir dit « mon objectif, c'est une inflation à 2%, laisser une inflation être beaucoup plus sans réagir. » Elle se devait de réagir, mais ce n'est pas le bon instrument. Et donc, j'ose penser qu'elle aura l'intelligence de ne pas aller trop loin dans le resserrement monétaire.
Alors, c'est un corollaire assez direct de la hausse des taux, c'est l'immobilier. C'est un placement qui reste évidemment des préférés en Belgique. Jean Hilgers, l'un des directeurs sortants de la Banque Nationale, disait dans l'écho il y a quelques jours qu'il était assez confiant. Pour lui, le marché immobilier belge est sain, il ne craint pas l'explosion d'une bulle parce que les crédits hypothécaires sont généralement à taux fixe, donc il n'y a pas vraiment de mauvaise surprise à attendre. Et puis, il n'y a pas de suroffre sur le marché. Est-ce que c'est un avis que vous partagez?
Tout à fait. Le marché belge est un marché qui, en plus, est caractérisé par une grande inertie. Imaginez quelqu'un qui se dirait, prenant peur par rapport au prix de l'immobilier, « Ah ben, je panique, mon appartement, je vais vite le vendre et je vais en obtenir 200 000, 300 000 euros. » Et qu'est-ce que je fais avec mes 200 000 euros? Est-ce que c'est le mettre sur un livret d'épargne qui va vous apparaître comme une alternative particulièrement attractive? Si vous avez peur, vous avez encore moins envie de le mettre dans des actions et même des obligations. Vous dites, ah ben, si j'ai peur, c'est peut-être que les taux d'intérêt vont encore monter. Ben donc, je vais faire une moins-value sur mes obligations si je place maintenant mon argent. Donc, à tout prendre, l'avantage de l'immobilier dans ces circonstances-ci, c'est que vous ne pouvez pas vendre une demi-salle de bain ou un tiers de chambre à coucher. Et donc, les gens vont rester, entre guillemets, collés avec leur immobilier parce qu'ils n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'ils pourraient faire autrement. Le marché va se calmer gentiment. Quand vous avez une inflation à 10% et que les prix de l'immobilier sont stables, ça fait moins 10% de valeur pour votre patrimoine immobilier. Et donc, c'est ce à quoi nous allons assister. L'inflation va amener du réalisme, mais d'une manière lente et sans crise.
Donc, il ne faut pas craindre une correction supplémentaire à l'inflation, à vous entendre.
Non, je ne pense pas. Peut-être qu'il y aura enfin une prise de conscience de la dimension environnementale. Et donc, ça veut dire non seulement les performances énergétiques du bâtiment, mais aussi sa localisation. Être près d'une gare ou être loin de tout, transport en commun, c'est pas la même chose. Ces villas qu'on nous construit au bord des nationales, avec pas d'autres moyens de se rendre à son travail ou à l'école qu'avec des voitures, c'est des choses qui doivent résolument appartenir au passé.
Alors passons sur des sujets peut-être un peu plus politiques, Étienne. On a le sentiment que les gouvernements, à tous les niveaux de pouvoir d'ailleurs, sont déjà en affaires courantes, préélectorales. Ça tire un peu dans tous les sens. Ce dimanche, la grande réforme fiscale promise par la Vivaldi a encore fait parler d'elle. Le président des socialistes flamands, Conor Rousseau, a dit s'opposer à toute augmentation de la TVA sur les produits de base et de l'énergie. On sent une certaine paralysie déjà, alors qu'il y a encore du boulot finalement dans les réformes à boucler, sur les pensions par exemple, mais aussi pour l'assainissement des finances publiques. L'exercice budgétaire du mois de mars va être particulièrement délicat, non?
Oui, ça va être difficile et c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière de fiscalité. Il n'y a personne venant de Mars qui, observant la fiscalité belge, se dit « Oh, celle-là, elle est géniale, je ne vais pas y toucher un iota, quoi. Il suffit de se comparer aux pays étrangers, ce qui est toujours un exercice un petit peu sain, c'est comme se regarder dans le miroir ou se peser, quoi. Eh bien, on verrait que notre fiscalité, c'est une monstruosité, il n'y a pas d'autre mot. Donc, j'ai envie de penser que nos hommes et femmes politiques auraient tout intérêt à réaliser que ce qui va les sanctionner en 2024, c'est leur immobilisme. Ce qui fait le jeu des extrêmes, c'est d'abord l'inaction des pouvoirs. Et donc, à force de se neutraliser l'un l'autre, ils font le jeu des extrêmes. Et ça, c'est une responsabilité particulièrement lourde. Et voir le SPA, Voorhout, s'opposer à une augmentation de la TVA, c'est très triste parce qu'en fait, la TVA, sur ce qui fait partie de l'indice santé, elle est sans effet sur le consommateur moyen. Le consommateur moyen est immunisé contre une augmentation des prix de ce qui est dans l'indice santé, ce qui est le cas de l'énergie, hormis les carburants. Et donc, je vois ici un déficit de pédagogie, un déficit de courage et une mi myopie coupable, en plus de ne pas payer au bout du compte.
Je ne suis pas sûr, si dit qu'un martien comprenne quoi que ce soit à ce qui se passe en Belgique. Hein, mais... Alors, cette paralysie politique, elle a l'air de s'étendre aux partenaires sociaux aussi. Alors, peut-être pas pour les mêmes raisons, ceci dit. Mais depuis le clash de décembre dernier, où les patrons et syndicats s'étaient quittés un peu fâchés, il ne s'est plus passé grand-chose. Et c'est finalement le numéro 1 de la FGTB, Thierry Baudson, lui-même, qui appelait les patrons à revenir à la concertation sociale. C'est un peu le monde à l'envers, non ?
C'est le monde à l'envers, mais pourquoi pas ? Mais ceci dit, il y a de quoi être déçu de l'attitude aussi bien des organisations patronales que des organisations syndicales. Les patrons qui depuis des mois nous annoncent la catastrophe qui ne vient pas en espérant mendier quelques aides publiques, c'est assez triste comme spectacle. Mm-hmm. Mais du côté des syndicats, s'arc-bouter sur l'existant, protéger les avantages des travailleurs en place, ce n'est pas la bonne façon de préparer le terrain pour les années et les décennies qui viennent.
Mm-hmm. Par contre, il faut s'attendre à sans doute un printemps social assez agité. On a vu Deleuze dénoncer unilatéralement les conventions collectives. Il est en train d'accroître la part des magasins en franchise. Est-ce que ça risque de faire un peu tache d'huile finalement ?
Ce qu'il faudrait percevoir, c'est qu'en s'accrochant à des règles telles qu'elles existent aujourd'hui, dans la durée, on ne protège pas ceux qu'on pense protéger. Pensez à l'indexation automatique des salaires. Si elle était si merveilleuse, est-ce que les gens auraient une impression de perte de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on a énormément de salariés qui, tout en étant indexés, ont l'impression d'avoir perdu du pouvoir d'achat. C'est que l'indexation, ce n'est pas si génial que ça. Donc, il faudrait pouvoir parler de l'indexation, et notamment baser une indexation sur le panier de consommation de ceux qui ont un pouvoir d'achat moindre. Et c'est la même chose pour les conventions collectives de travail. À préserver à l'existant, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Le système trouve l'échappatoire. C'est donc un changement de convention collective. Plutôt que de moderniser des conventions collectives, on préfère cette piste-là, mais dans la durée, elle fera plus de tort que de bien.
Alors, on sort de la période des résultats d'entreprise pour 2022. Alors, c'est assez surprenant, malgré l'année plutôt secouée qu'on vient de vivre, mais pas mal de grandes entreprises ont engrangé des résultats records. Je prends par exemple le groupe chimique Solvay ou l'assureur AGS. Les marges bénéficiaires sont restées relativement bonnes en 2022, mais est-ce qu'il faut s'attendre à un effet retard finalement de la crise et donc du coup des résultats 2023 qui soient nettement moins bons à cause de l'indexation notamment dont on a parlé ?
Alors, il y a plusieurs éléments dans la réponse à donner à l'évolution des entreprises et sociétés cotées en bourse. Le premier, c'est que en fait on parle de crise, mais il n'y a pas vraiment de crise. La croissance économique en Belgique a atteint 3% en 2022 et atteindra vraisemblablement 1% en 2023. C'est pas terrible 1%, mais c'est pas si mauvais que ça. Donc premièrement, le contexte n'est pas vraiment celui d'une profonde récession, même si beaucoup de patrons de la FEB à l'Union des classes moyennes sont là à crier comme si c'était la fin du monde. Donc première chose. Deuxième chose, les difficultés vont peut-être venir, mais il faut voir que quand on parle des sociétés dont nous évoquions les noms, AGAS et les autres, ce sont des sociétés qui ne sont pas représentatives de l'ensemble du tissu économique belge. Mmh. Il faut bien voir que les entreprises qui sont cotées en bourse sont en général de grandes entreprises et qui ont souvent un pricing power, une capacité à répercuter auprès de leurs consommateurs l'augmentation des coûts qu'ils subissent dans leur prix de vente. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour le boulanger ou le boucher au coin de la rue. Mais il faut aussi ajouter que le boulanger et le boucher doivent réaliser que s'ils ont un processus de transformation qui est extrêmement énergivore, c'est logique, il faut que la viande soit plus chère si la viande est très énergivore. Il n'y a pas à sortir de là. Et si la résultante, c'est que nous consommions moins de viande, eh bien, tant pis. J'ai envie de dire plutôt tant mieux.
Tant mieux. Merci Étienne de Calataille d'avoir été notre invité ce matin et puis merci à tous les fidèles auditeurs du Brief aussi. Je vous retrouve demain et je vous souhaite une très très bonne journée. À demain.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.